On va enchaîner direct avec Sandrine. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que... Et puis après, on fera peut-être une pause de 5 minutes avant les gars, enfin, avant Stéphane et, si tu veux venir, Sandrine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'approche de Sandrine... Moi, j'espère que c'est pas... Enfin, vous voyez, c'est des trucs d'universitaire. J'espère que c'est pas trop conceptuel, mais on pourra en reparler après. Mais en tout cas, l'approche de Sandrine, c'est une approche qui est totalement différente. Donc là, vous allez voyager, ça va être pas du tout le même trip. Et pourtant, ça va être toujours focalisé sur ce terrain de ce qui se passe à Montaigu et des dynamiques associatives de Montaigu. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, comme Sandrine Hamin, elle est maître de conférence en entrepreneuriat et donc elle bosse sur la question de l'entrepreneuriat et notamment elle va dans des colloques avec des gens qui pensent sur la création d'entreprises, etc. Mais elle, si vous voulez, c'est une des rares gestionnaires qui fait de l'entrepreneuriat, on pourrait dire, alternatif. Parce que voilà, elle est spécialisée en économie solidaire, etc. Et donc finalement, quand elle est déboulée à Montaigu, une des premières réflexions qu'elle a sorties, c'est « Mais c'est un entrepreneuriat collectif persistant. » Donc, d'accord, donc c'est-à-dire le côté collectif. Donc, le montrer que l'idéologie néolibérale associe tout le temps l'entrepreneuriat à la figure singulière du leader charismatique. Et en fait, elle essaie de montrer qu'il y a aussi d'autres formes d'entrepreneuriat qui peuvent être collectifs. Et donc, comme elle a eu un flash, en fait, en voyant ce qui se passait à Montaigu autour des dynamiques collectives. Ça, c'était la première chose. Et puis après, sur le côté persistant, c'est aussi assez hallucinant, c'est qu'en général, l'entrepreneuriat, tel qu'il est développé, par exemple, par Schumpeter et la plupart des économistes mainstream, on pourrait dire, c'est l'idée que, voilà, il y a une destruction créative et c'est quelque chose qui est vraiment par vague. Et en fait, elle, ce qu'elle essayait de voir, c'est que Montaigu, il y a une espèce de continuité. D'ailleurs, on ne peut pas dire « Ah oui, pendant 3 ans, il y avait énormément de choses et après, il n'y a plus rien », mais il y a une espèce de continuité. Et ça, c'est assez fascinant. Comment ça se fait qu'il y a un côté dynamique qui dure sur le temps? Donc ça, c'était un peu... Enfin, je pense ces deux hypothèses de travail au départ. Et puis voilà, donc là, je lui laisse la parole.
Merci. Bon, ben moi, je crois que ma première diapo est déjà faite. Merci Jérôme, c'est plus simple. Donc voilà, bon bah comme Manu et puis comme vient de le dire Jérôme, donc c'est un travail que j'ai, enfin c'est un terrain sur lequel j'ai pu entrer grâce à Jérôme qui avait décidé, enfin qui connaissait déjà la scène et puis qui avait décidé avec Manu de travailler sur cette scène locale dans le cadre d'un programme de recherche, donc qui était le programme Valeur. Jérôme m'en avait déjà parlé, bon j'étais venue à quelques manifestations, puis c'est vrai que voilà, c'est le départ, ça a été ça. Donc moi je travaille dans l'entrepreneuriat, je croyais vraiment à l'entrepreneuriat collectif, mais l'entrepreneuriat, bon comme l'a dit Jérôme, c'était vraiment toujours plutôt travailler du côté du leader, de l'entrepreneur. On faut finalement travailler assez peu sur les questions vraiment de processus, comment ça se fait. Et puis quand on travaillait sur l'entrepreneuriat collectif ou quand des travaux commençaient à se faire sur l'entrepreneuriat collectif, en fait le collectif c'était une équipe entrepreneuriale, finalement 3-4 personnes qui décident de monter ensemble une entreprise, par exemple dans un domaine innovant ou des choses comme ça sur une... sachant que c'était assez en termes scientifiques ou d'analyse, finalement, l'intérêt, quelque part, enfin l'intérêt, c'est une manière de voir les choses, de travailler sur une équipe, c'est que finalement, une équipe, on va pouvoir le réduire à un corps suffisamment soudé pour qu'une équipe fonctionne comme un individu. Donc c'était très bien, on pouvait continuer à faire pareil. Et puis, ça ne posait donc pas de problème pour étudier l'entrepreneuriat collectif. Quand je suis arrivée ici... moi, j'ai vraiment eu l'impression que justement, ce que je voyais, c'était vraiment une forme d'entrepreneuriat collectif, finalement assez différente de ce qu'on pouvait voir, ou alors qui se rapprochait. Et donc ça, c'est le travail dont je parlais, dont je parle ici, ou la manière dont a été analysé le terrain ici, se rapprochait finalement de ce qui avait pu se dire sur les districts industriels. Alors, c'est vrai qu'on était quand même assez loin d'une scène musicale non monétaire, ou ancrée sur les pratiques amateurs et le bénévolat, mais finalement, là, on pouvait retrouver des choses en commun, sauf que ça avait finalement... Ces questions de district industriel, ça a été beaucoup étudié par les économistes, mais c'est justement, c'était assez peu saisi par les gestionnaires et entrepreneuriat. Donc le reste, je ne reparle pas. Phénomène limité dans le temps, je reviendrai après. Là, l'idée, c'est que c'est vraiment la scène en tant que telle, donc la scène musicale de Montaigu, que j'analyse vraiment comme un système entrepreneurial. C'est-à-dire que c'est vraiment la scène en elle-même qui génère finalement un déploiement d'initiatives, de dynamiques qu'on pourrait qualifier entrepreneuriales. Concrètement, moi, mon projet, j'ai envie de dire là, à titre de chercheuse, c'était de pouvoir rendre légitime, finalement, un objet d'étude qui est une scène musicale non monétaire comme un objet d'étude légitime en entrepreneuriat, alors que c'est pas forcément gagné d'avance. Et donc, tout l'objectif, c'est de bien montrer en quoi, finalement, c'est entrepreneurial, sans qu'entrepreneurial soit compris comme un gros mot par un certain nombre de personnes qui sont ici. Je le dis avant parce qu'après souvent je me fais allumer sur les questions. Donc un peu plus près de ma bouche. Donc l'idée, c'est de voir comment ce contexte entrepreneurial s'est créé, enfin est vraiment créé collectivement, et comment il est véritablement entreprenant dans le sens où il génère une dynamique entrepreneuriale, et quelle est la forme que prend la scène qui favorise ce développement d'initiative et surtout sa persistance dans le temps. Ça, c'est les questions qui me travaillent et qui ont été précisées en amont par Jérôme. Donc j'avais bien mis... Encore, d'accord, très bien. Bon, vous verrez, il y a des... Enfin, je le dirai tout à l'heure. Donc, donc les données, on les a bien récoltées à trois. Hein, c'est toujours la même enquête. Donc, les archives qu'a déjà montrées Manu. Sachant que là, je les exploite un peu différemment, notamment sur la gouvernance du collectif, j'y reviendrai. Et puis, toujours des entretiens. Donc là, vous verrez, il y en a plusieurs qui sont cités, ils sont aussi anonymés, donc on a entretien numéro 5, entretien numéro 3, mais vous devriez vous reconnaître. Voilà. Bon, ça, je l'ai déjà dit, l'approche procédurale, etc. Je reviendrai si vous le souhaitez. Donc, pour commencer, donc je vais quand même parler de cette scène, même si la Manu a déjà avancé un certain nombre de choses, donc je vais la présenter avant un peu de l'analyser. Donc elle est née dans les années 80, donc c'est ce qu'on voyait bien avec Manu. De l'énergie, de premières personnes qui avaient simplement envie d'aller aller à des concerts, de voir du concert, donc finalement d'en organiser, d'aller ensemble sur des festivals un peu plus loin, bon ça reste sur la Vendée, hein, mais bon voilà, de covoiturer ou des choses comme ça, et ça a véritablement commencé comme ça. C'est vrai que moi, je vais quand même surtout me focaliser sur la période 90-2015, donc 25 ans d'activisme rock ou d'activisme punk, puisque 90, début 90, c'est la création de la première association qui constitue aujourd'hui le collectif Y croit quoi, comme vous voyez, qui est une association de diffusion qui s'était développée parce qu'il n'y avait rien de spécial à faire dans le coin et qu'on s'est dit pourquoi pas faire venir des groupes. C'est vrai que finalement, on s'emmerderait un peu moins. Donc c'était vraiment ça, le début des choses. Un certain nombre de groupes de musique, dont Antirouille, que vous avez déjà vu tout à l'heure, les Stuffies, les Spumens première édition, qu'on retrouve là. Puis de nouveaux groupes de musique au début des années 92, des années 90. D'autres associations de diffusion qui se créent. Donc là, on voit le concert militant Bande de Choc, annulé par le maire de la Bruffière. Donc on voit quand même ce côté... frontal et souvent en opposition ou en difficulté avec les maires, parce qu'effectivement, si on prévoit un événement pour peu de personnes, que plein de gens viennent ou que ça dérape un peu, c'est forcément pas forcément ce qui est apprécié ensuite par les officiels, mais ça montre aussi toujours un peu la manière dont les choses pouvaient se faire. Donc au départ, on a surtout des associations de diffusion, et des groupes de musique, mais dans les années, au milieu des années 90, donc là, les groupes de musique que vous voyez en bas, Quixotique, International Mandari, commencent à, pour certains, donc, à fonder des associations pour se gérer. Et donc, on a d'autres associations qui se mentent, Crawet, donc, qui gère du management de groupe. Donc, au fur et à mesure qu'on commence à avoir un développement d'activités musicales sur la commune, progressivement, on a aussi, donc ça, c'est quelque chose que j'ai repris de Manu, d'un diapo qu'il avait fait sur le petit schéma. On commence à avoir de nouveaux besoins qui se créent. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir du management de groupe. Bien sûr, on a des groupes, donc besoin d'une salle de répétition autogérée, donc carrousel. De nouveaux besoins qui se créent, on commence à faire de plus en plus d'événements, des festivals, donc besoin de déco, les décorateurs de l'espace, Monique Lamouche, donc tout un ensemble aussi d'autres associations qui se créent au fur et à mesure que des besoins autour finalement de l'activité musicale à Montaigu se développent, à INU, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, donc un label et une distro indépendante, Kérosène aussi avec un S de Dan. Donc on voit de plus en plus d'activités qui se développent autour de ce qui se passait au départ, finalement uniquement une activité de diffusion où simplement on va à des concerts. Je reviendrai là-dessus. Oh non, je ne reviendrai pas là-dessus ensuite, donc je vais rester là. Qu'est-ce que je voulais dire là ? Oui, voilà, c'est pour ça que je suis là, j'y suis. Donc on a commencé au départ plutôt sur des activités. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai repris d'Emmanuel Parent, donc une présentation qu'on avait faite il y a quelques temps ensemble sur le sujet, mais je parlerai ensuite de choses différentes, où on voit au début qu'on a commencé par des éléments de diffusion, on voit Anticorps, Onde de Shot, Arsenic, et puis que progressivement, finalement, l'ensemble des maillons de la filière musicale sont représentés à Montaigu, c'est-à-dire qu'on a une remontée de la filière progressive avec des groupes, des associations de groupes, du management, et puis après des choses autour comme les fanzines, mais aussi des activités indépendantes qui peuvent se monter, comme de la location à un moment donné de véhicules avec chauffeur pour les tournées. Donc on voit tout un ensemble d'activités qui se créent autour, au départ, de cette impulsion de personnes qui ont simplement envie d'écouter de la musique et de partager des moments conviviaux ensemble. Sauf que là, ça paraît bien fonctionner, mais en vérité, c'est toujours quand même un peu en difficulté. Les associations sont toujours en difficulté pour monter des concerts. Ils ont accès que quelques fois dans l'année au foyer des jeunes, qui n'est pas prêt pour organiser ce type d'événement. Donc il faut arranger la salle, démonter ensuite après les concerts. À un moment donné, même la salle de répétition a été fermée totalement arbitrairement, sans même qu'on soit prévenu. Donc en 98, on a trois associations qui décident finalement de se regrouper, ou en tout cas de militer et d'œuvrer pour le développement de cette culture alternative à Montaigu, et surtout l'obtention d'une salle de concert notamment, donc une salle à faire. Et ça, c'est vraiment le début d'Y crois quoi. Donc là, j'ai une petite carte postale qui avait été diffusée autour d'une fête de la musique, enfin pendant une fête de la musique, globalement les rues avaient été un peu bloquées ou le chemin un peu géré de manière à ce que tout le monde soit un peu obligé de récupérer cette carte postale de manière à bien montrer le besoin qu'il y avait de faire une salle spécifique à Montaigu pour que cette culture puisse aussi se mettre en place. Et on voit dans les entretiens qu'au départ, l'énergie du collectif, donc du collectif Ikrakoa qui est créé officiellement sous forme associative en 2002 et qui à ce moment-là, d'un coup, 8 associations sont fédérées, enfin, ou adhérentes autour de cette association. Donc c'est les 8 associations, donc c'est le sigle Ikrakoa s'explique par le nom, enfin les initiales du nom des 8 associations initiales ou qui sont à l'initiative de cette d'y croire quoi, voilà. Et donc on voit bien que l'énergie du collectif ou que l'objet du collectif au départ c'est vraiment l'obtention de ce lieu de vie, même s'il y a toujours eu aussi quand même un soutien aux associations adhérentes en faisant tourner les compétences entre les associations au niveau du matériel, tout ça beaucoup bénévolement par la transmission du savoir, même si on peut avoir quelques rares salariés qui jalonnent, on va dire, l'histoire du collectif. Plus maintenant, mais là, de toute façon, je suis un peu plus au début. Un moment fondateur, ou enfin pas fondateur, mais un moment important, c'est l'obtention ou l'inauguration du Zinor, donc où on est là, ce que vous avez vu en arrivant en 2012. Donc là, en 2012, donc 10 ans après la création d'Y crois quoi, un lieu de vie et une salle de concert pour Y crois quoi, même si en termes financiers ou finalement au départ d'obtention, c'était toujours une location au départ à l'événement, c'était pas forcément encore idéal. Mais c'est vrai qu'avant cette salle, il y a eu tout un moment un peu de flottement lorsque le foyer des jeunes n'a plus été accessible et que il y avait donc plus de lieu véritablement pour pouvoir faire des concerts, à part bien sûr les bars ou autres, dans Montaigu. Ça est un élément important. Je vais peut-être arriver tout de suite, je reviendrai ensuite avant, mais sur la flèche, puisqu'on voit bien, on a un collectif qui est créé. Donc en 91, une première association. En 98, lors de la création de feuille du collectif, on a 3 associations. Donc il y a eu un développement de la scène, mais qui n'est pas encore très important en termes associatifs. 2002, on voit déjà qu'en 98 et 2002, on est déjà passé à 8 associations. Entre 2002 et 2012, il y a un nombre fluctuant d'associations, mais en 2012, on est toujours, j'ai envie de dire, à 8 associations. Et un an après l'ouverture, finalement, du Zinor, on est passé à 14 associations. Même pas un an, puisque c'est septembre, l'ouverture du Zinor en 2012, donc très rapidement. Et deuxième grand moment qui permet, on va dire aussi, une montée en puissance du collectif, c'est l'ouverture des statuts. En 2014, ouverture des statuts, le collectif se dit « Ok, on va continuer à être toujours sur les cultures alternatives, mais on va peut-être s'ouvrir aussi à des associations plus dans le domaine du social, de la solidarité, à la MAP qui va pouvoir venir proposer ses produits dans notre lieu de vie, etc. Et on va aussi s'élargir un peu en termes géographiques, vraiment terre de Montaigu, donc un peu plus largement. Et là, on voit aussi un bond. Hein. Un an plus tard, on se retrouve à 23 associations. Donc on a des moments qui créent ce fort développement. Donc ça, c'est pour moi un élément, ce foisonnement associatif, c'est un élément qui manque que oui, on est sur un phénomène entrepreneurial. Je veux dire, c'est même pas la peine d'en discuter. Un cluster, un district industriel, on va dire, ok, si on veut mesurer qu'il est entrepreneurial, on va pas regarder si chaque firme ou petite entreprise qu'il constitue est entrepreneuriale. On s'en fout, puisqu'en général, voilà, c'est des PME, elles sont pas fortement innovantes. Mais ce qui montre qu'on est sur un phénomène, une forte dynamique entrepreneuriale, c'est qu'il y a une croissance, finalement, un développement d'entreprise dans un même domaine qui se fait sur un lieu. Bon, bah là, très clairement, c'est ce qui se passe aussi, même si finalement, le domaine, c'est pas une filière industrielle, hein, c'est pas un secteur industriel, mais c'est le domaine musical. Donc le foisonnement d'activités, d'individus et d'associations, ou même d'activités indépendantes qui se créent à Montaigu, est un signe de ceci. Et au-delà, vu qu'on est justement sur un entrepreneuriat culturel, on peut quand même s'appuyer sur les travaux de Swedberg, qui, lui, est un économiste, mais enfin qui travaille sur... excusez-moi, c'est un sociologue qui travaille sur les travaux des économistes, et notamment les travaux de Schumpeter, mais en relisant, c'est vraiment ses premiers écrits, avant qu'il se sentit un peu obligé de rentrer dans le moule, et donc un peu de changer son discours, et qui nous dit, si on lit vraiment Schumpeter, qui est souvent considéré comme le grand auteur en entrepreneuriat, finalement, dans le domaine culturel, si on voulait mesurer un entrepreneuriat culturel, il faudrait regarder, est-ce qu'il y a bien quelque chose de de valeur ou perçu comme ayant de la valeur, une valeur culturelle qui a été créée dans un domaine. Donc à partir du moment où on a une scène qui est visible, qui est reconnue, du fait qu'on puisse parler aujourd'hui de la scène punk de Montaigu et de faire venir quand même un certain nombre de personnes ici aujourd'hui, on peut penser que cette valeur culturelle, elle existe et elle est reconnue, qu'on est bien en présence d'une scène qui est perçue, donc aussi visible et pas simplement vécue par les acteurs qui la font. Et en sens, il y a bien eu une création de valeur culturelle et c'est... encore une fois, entrepreneurial, il me semble. En ce sens-là, c'est entrepreneurial, ça va aller. Bien sûr, des valeurs sociales aussi très fortes, associées à travers le développement du bénévolat. On peut considérer ici qu'on a vraiment une insertion par l'activité non économique qui se fait, puisqu'on est d'abord sur des compétences qui s'acquièrent dans le cadre de bénévolat, mais quand on regarde le nombre de personnes qui sont aujourd'hui techniciens son, techniciens dans les lumières, ou même qui peuvent, à travers les catering ou le fait qu'ils aient organisé pendant des années des repas dans tout ce bordel-là, finalement passent un CAP cuisine et travaillent dans un restaurant ouvrier, on peut se dire, là, il y a eu vraiment, effectivement, comme là, j'ai mis le nom, comme Titille dit, un centre de formation alternative à Montaigu et que ça participe de cette valeur sociale qui est créée à côté aussi donc de la professionnalisation, à côté aussi bien sûr du lien social qui peut se développer ici. Donc ça, c'était la présentation de la scène. Donc là, concrètement, moi, ce qui m'intéresse ici, ce que je voyais ici, c'est que on avait bien la création collective d'un contexte. Donc, pour des processus entrepreneuriaux, enfin, ça, j'espère que vous avez vu à travers ma vision de ce que j'appelle l'entrepreneuriat, qui est donc une vision très large. Et cette création collective, on est vraiment dans une... Là, je suis plutôt dans une approche systémique ou complexe, c'est-à-dire c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que finalement, on voit bien que c'est tout un ensemble d'acteurs qui, à un moment donné, se rencontrent. C'est la définition même d'une scène, autour d'une esthétique musicale donnée. Et ça va donner naissance de manière émergente. Ça va faire émerger de manière non déterminée au départ quelque chose assez... ça va faire émerger spontanément quelque chose, une forme ou une structure qui est aujourd'hui la scène de Montaigu telle qu'elle existe. Et en ce sens, on est vraiment donc c'est un système entrepreneurial un peu particulier où on voit bien cette interconnexion d'acteurs qui crée quelque chose, une forme entreprenante. Sa particularité, c'est qu'elle aurait les caractéristiques, c'est qu'elle semble avoir les caractéristiques d'un système à couplage lâche qui, selon Johannisson en 2002, serait un système à couplage lâche, ce serait la forme idéale d'entrepreneuriat collectif. Alors sachez-le, c'est quand même pas rien. Puisque, en fait, la particularité des systèmes à couplage lâche, donc un système, donc là, c'est un ensemble d'éléments interreliés qui forment un tout. L'idée, c'est que les parties qui forment ce système, donc les parties, c'est les individus et les associations qui forment la scène, sont assez fortement soudées. Il y a des liens forts qui sont créés entre eux et qui permettent une bonne cohésion à l'ensemble, mais tout en conservant une grande autonomie aux parties. Enfin, ces différents éléments. Et en effet, il semble que ça fonctionne bien comme ça ici, puisque s'il n'y a pas cette autonomie, et c'est souvent la fragilité des équipes d'entrepreneurs, par exemple, ou des équipes entrepreneuriales, si un membre ou un élément sort, finalement, c'est l'ensemble du système qui est remis en cause, et c'est ce qui va se trouver aussi dans des associations qui ont des gouvernances très, très, très fortement soudées autour d'une équipe de fondateurs et qui ont du mal à s'en séparer. Donc là, ici, on a des entrées, des sorties de la scène ou des associations sans que ça pose véritablement problème. Et on a aussi, d'ailleurs, on le voit, si on regardait statistiquement, entre guillemets, les entreprises, les associations au fur et à mesure dans la scène, il y a beaucoup d'entrées et de sorties. Et les associations, même si pour la plupart adhèrent à un collectif, elles restent indépendantes. Elles sont d'abord là pour faire leur activité, organiser leurs concerts notamment quoi. On n'est pas sur des associations qui sont enfermées dans ce collectif. Et, Et pour bon, la cohésion, finalement, ça, Manu, là, a tout à fait reparlé de ces éléments-là tout à l'heure, quand il parlait du do-it-yourself, quand il parlait des liens de parenté, hein, parce que c'est lui qui avait étudié ça, et tout un ensemble de valeurs communes qu'on retrouve et qui sont fondatrices au fonctionnement de, ce, du, de la scène et du collectif en particulier. Maintenant, comme le dit Jérôme, j'aurais presque pu le mettre entre guillemets, le punk n'aurait pas suffi. Et y a bien une scène qui a émergé de la mise en place d'actions distinctes, hein, de tout un ensemble de personnes qui avaient envie de faire des choses. Mais en même temps, le collectif, la réunion en collectif a permis aussi, hein, d'assurer la cohésion du tout. Et la particularité du collectif, c'est que finalement, on pourrait presque retrouver de nouveau les caractéristiques des systèmes à couplage-lâge au niveau du collectif. Ne serait-ce qu'à travers le choix du statut associatif, à un moment donné, ça a été la question, on fait quoi ? Est-ce qu'on fusionne les associations de départ ? Ah ben non, nous, on veut une association, parce que c'est ce qui permettra d'avoir un collectif qui restera ouvert et de permettre à d'autres de mieux pénétrer le lieu. Et puis surtout, on a une grande culture alternative de la gouvernance avec un fort renouvellement du bureau. Alors là, j'avais pris quelques verbatims, mais je ne vais peut-être pas tous les dire. Bah, au bout de 3 ans, je pars, car c'est comme ça que j'ai appris l'associatif. Et puis, moi, j'aimais bien gueuler pendant les AG, quand je faisais les réunions. J'ai même gueulé pour que ce ne soit pas je ne sais plus qui reprenne la présidence derrière moi, parce qu'il avait déjà été président. Non, un nouveau là, un tout neuf. Donc, on voit bien quand même, voilà, c'est ça aussi les valeurs en fait qui fondent ce qui se passe ici à Montaigu. Ça se voit aussi dans les chiffres. 7 présidents différents en 14 ans, c'est quand même un bon record. 3 mandats maximum par président. Et si on regarde le reste du bureau, quand même 22 membres, j'ai pas compté les présidents dans les 22, donc on arrive déjà à 30 membres sur ces 14 ans, dont les 22 membres, que 4 qui ont été également présidents, donc il n'y a pas du tout quelque part je suis membre du bureau et je deviendrai président. Non, il y a vraiment un nombre de gens qui rentrent là-dedans, qui sont brassés, qui est assez hallucinant, et 4 mandats maximum, quelle que soit la fonction dans le bureau, et sachant qu'ils sont très très imaginatifs sur les fonctions qu'il peut y avoir dans un bureau. Mais ça, bien sûr, ça évite une trop forte dépendance à l'équipe dirigeante. Et donc ça, c'est l'autonomie. Mais en même temps, on retrouve la cohésion, puisque quand on écoute les gens, ils nous disent aussi « oui, mais les décisions, elles sont collectives ». Le président, il n'est jamais seul. Alors, cette défaut, on oblige quelqu'un à lever la main en AG pour qu'il soit président. Mais on lui disait, quand on faisait une AG et qu'on essayait de sortir un président, on ramenait souvent sur le tapis, il faut un président. Mais ce n'est pas forcément lui qui va tout porter, les idées, aller devant le maire. Non, il faut un président à un moment, il faut un nom, quoi. OK, mais en gros, ce sera d'abord nous qui allons faire les choses. Quand tu arrives là-dedans, ce sur quoi tu hallucines, c'est la force du groupe, la dynamique de groupe. Je connaissais déjà le fonctionnement associatif. Mais ce que je découvre, c'est une gouvernance alternative quand même, où justement, tu n'as pas un bureau tout puissant avec 2 ou 3 personnes qui travaillent le truc, puis les autres qui suivent comme des moutons en levant la main. Donc là, on a vraiment quelque chose de... Enfin, vraiment une démocratie participative qui s'exerce ici à Montaigu. Un bureau vraiment actif, mais aussi des groupes de travail aujourd'hui, des commissions à côté, des CA qui sont très rassembleurs, j'avais pas lu ce qu'il y avait avant, des AG importantes. Bon voilà, on est quand même sur un fonctionnement très, très collectif, et ce sera mon dernier élément. Comment ? Ah oui, bah, c'est parce qu'en fait j'ai dû prendre des anciens où j'avais pas encore anonymisé et puis des nouveaux où je l'avais fait. Alors Momon, tu es cité mais il est pas là, c'est pas grave. Ah mince, il est arrivé. Donc, et surtout, moi ce qui m'intéressait, parce que je voulais vraiment montrer qu'ici c'était un entrepreneur collectif qui était diffus, ou un collectif diffus qui portait finalement cette dynamique-là, et non pas justement une simple équipe entrepreneuriale. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit que les personnes finalement qui portent c'était peut-être ma diapo d'après, les personnes qui portent le collectif à différents moments, hein, et qui sont actifs, ils se recrutent entre guillemets à l'échelle de la scène. Et c'est justement parce qu'il y a aussi tout ce magma d'activisme, d'activité autour, qu'on arrive à se régénérer. Et c'est aussi ça qui permet de faire que, alors même que tout à chacun, à un moment des baisses d'énergie, on dit, bah voilà, pourquoi l'entrepreneuriat ça perdure pas ? Parce qu'au bout d'un moment, le gars, bah voilà, il se marie, il a des enfants, il retape sa baraque, il a plus l'énergie. Bah ici, c'est pareil, hein, les gens, à un moment donné... Damien, il a fini de retaper sa baraque, il l'avait bien retapé à un moment donné. Et donc voilà, mais sauf que voilà, ça perdure parce qu'il y a toujours un passage de relais qui est possible, et notamment en raison de la manière dont est menée la gouvernance en amont. Donc on retrouve souvent, j'ai fait un stand-by, puis je me suis réinjecté dans le truc, on voit bien l'idée quand même, tu vois, à l'automne 2011. Et donc voilà, et c'était ma fin. Après, c'était une conclusion, voilà.
Ouais, en plus, ça permettait d'avoir une nana quand même qui parle, parce que c'était quand même important de, quand même, dans la matinée. Et heureusement que Solveig est là, justement, dans le projet PIND, pour représenter au niveau national. Mais voilà, je voulais qu'au niveau local, ce ne soit pas que des mecs non plus, quoi. Et donc, du coup, peut-être vous êtes un peu vidés. On peut peut-être faire 5 minutes d'arrêt avant d'avoir 2 témoignages d'assaut local. Merci.